les Hébrides extérieures, Nainjgul, île de Skye. À Kaelor Alche, l'août est frais, l'air vif, le vent vif. Là, le Kael n'est qu'un ruisseau coulant sur les débris qui porte mes pas depuis hier, de la Poule jusqu'au Gerlor et d'Applecross jusqu'au Killin. Débris d'un continent où mille Mississippi mêlés, sans répit le Gneiss de Lewis. Dépôt connu sous le nom de vieux grès rouge de Toridon. Île de Lewis et Eris. La grande île s'étend de Rube Hainish à Rube Rovanish. Elle a pourtant reçu deux noms, Eris et Lewis. Les amoureux du Gneiss voient bien leur différence qui se perd dans le temps, une trace pliée dans le lieu. Magnifique de veine, le Gneiss témoigne d'une origine absente et qui sidère. En lui rougeoient les causes et la nuit dans la lande. Au sud de Beinbragi, on sent poindre son piège. Au matin fourbu de son histoire hors d'âge, voir la danse arrêtée des pierres de Calanish et la hure hargneuse d'une truie rose et noire, puis le bror qui se dresse au lieu d'un Carloé, comme des bornes, et les passés, quelle parole à venir pour excéder cette présence. Île de Lewis, tout à la pointe, là où les flots démontés frappent la mer et les fulmars s'en fichent, la roche sidérante nous impose la vue de ses plis verticaux, de ses feuillets forgés à des feux plus invisibles que ceux d'astres éteints depuis 10 milliards d'ans, depuis de temps à sec, plis plongeant dans la mer et prolongés jusqu'au soleil absent. À 100 mètres, barbotent des bécassos en halte, depuis Islande ou Féroé, un pipite maritime et ses 20 grammes, moins gênés par le vent fort présent que je ne suis par le temps tari, la vie. Aucun bruit dans le grand dehors, où sur des lits et des lits les lors s'éploient au gré des ondulements lewisiens, dûment lustrés et polis des glaciers lorsque s'est refermé l'oubli. Rien que des lits de landes et de l'or, de Langavat, le l'or au nord, jusqu'au sud, le l'or Langavat. Très peu de Bein, très peu d'amer, l'esprit des vagues en deçà de la côte, les bruits divagues et meurent ou vivent, quel qu'en soit l'hôte. 10 oies cendrées s'élancent dans le vent, un pluvier roule, un œil rond, une barge à queue noire mange avec des vanneaux, mes 10 doigts sont drossés. Dans la morne saga du Gneiss en palimpseste, l'éruption du granit secoue les jambes, change le rythme. Pas d'infini qui vaille. La mer a son quantum, les dunes leur canta. Marchant à la limite, quant à moi, je m'emplis d'amère labile comme un vol de puffin. L'immense plage vide et blanche à marée basse, le bleu du ciel miroite sur le sable et l'ombre des nuages file à grande vitesse. C'est une danse des plis qui s'ouvrent en une ample respiration. Vatnajökull. Latitude 63 degrés 50 minutes nord à 64 degrés 40 minutes nord. Longitude 15 degrés 50 minutes ouest à 18 degrés 20 minutes ouest. 1000 mètres de glace étendue sur 10 volcans, Vatnajökull, la dépression entre Islande et Groenland, attire des cyclones extratropicaux subarctiques où se mêlent les eaux des tropiques et du nord Atlantique. Les pluies intenses et le relief de hauts plateaux retiennent, accumulent, tassent l'infini des flocons, amas d'exhalaisons caraïbes et de caribous. Vaste masse sous laquelle se séparent l'une et l'autre reculent les plaques océaniques de l'Europe et de l'Amérique, effet de courants convecteurs, montés du tréfonds de l'astre Roton. En surface, sous nos yeux, Vatnajökull délivre dans ses lacs des icebergs bleus. Bleu de neige comprimée, bleu de glace dégazée, bleu d'avoir de grands cristaux, bleu d'absorber le rouge, qui se meuvent au gré des vents et des courants fréquentés par les phoques et les sternes arctiques, avec lenteur, et comme une troupe de trolls mal équarris. Iceberg changeant de couleur et de forme parce que le soleil, parce que le vent s'y coule, parce que la glace est aussi vivante que la lave et rappelle parfois la silhouette rocheuse aperçue il y a tant de siècles lorsqu'elle tombait flocon dans la tourmente atmosphérique de la dépression islandaise. De mémoire d'oiseaux marins, de fulmars, de fous de bassin, de mouettes tridactyles, de sternes arctiques, de goélands ou de grands squats, on n'a jamais vu les eaux froides de l'Atlantique battre autrement cette côte sud d'Islande. Le vent constant forme les vagues qui ramènent la glace bleue sur la plage basalte. Après des siècles, après des millénaires à ne connaître d'elle-même que les phases de feu, l'eau, la glace de Vatnajökull avance en procession par un chenal depuis son lac glaciaire, profond comme la mort, jusqu'à l'Atlantique Nord. Les eaux froides accueillent les eaux glaciales, la pêche est bonne pour les becs et les mâchoires. Majesté de la glace engoulée par l'océan, dont le sel initie la fusion eutectique, promesse d'un destin marin, ballotté par la houle et habillé d'écume, les blocs d'azur s'échouent sur la grève et les formes qu'ils prennent sont celles de la mémoire. Dans les embruns, la masse déjà s'étonne, puis sur la berge, l'eau cristalline est festonnée par le sable, en quoi la glace, la pluie, les vagues ont réduit les basaltes des Esjufjöll, Breda Mercurfjall et Snæfell, à moins que le courant est-islandais ne l'ait porté depuis plus loin. Mais désormais, le vent érode toute surface y rencontrée, et les reliques du glacier venu gésir ici ont mille fois le temps de revenir ici qu'un volcan soit poli en galet. Mille fusions avec la mer renouvelée, mille voyages et mille milles sous toute latitude dans les courants océaniques et dans les nuages à retrouver un bel hiver après avoir failli autour du 66e parallèle perlé sur l'aile d'un goéland marin, là où les plumes primaires laissent l'ardoise pour le blanc, à retrouver sa vie de duvet d'eau nommée flocon et se poser comme une plumule sur le dos de neige ardoisée du seul Vatnajökull. Planktos. Le pont de la goélette quittant le port d'Húsavík ce matin d'août 1927 avec pour équipage les frères Thorfinnsson et le vieux goéland, malade matelot et mascotte marine, doit résonner bientôt des coups de queue de la morue du Groenland, Gadus Ogak, ou du hareng, sinon Rafne et Ulfur devront partir et s'établir sur les terres de Lodvir, comte d'Orkney au Xe siècle, ou naviguer vers l'ouest, comme il est dit dans les récits. Pour eux, ce matin d'août, sous la lumière arctique, est un léger vent et un léger vent frais, ce départ est possible. Le petit port abrite dans ses hangars de tôle du sel de Portugal et du charbon de Cardiff dort sous des planches. Chalutiers et voiliers se côtoient dans la rade. Des bateaux de commerce, des barques pourrissantes au pied des quais barrant les dalles de basalte. Toutes les côtes atlantiques leur sont ouvertes depuis ce lieu. À quelques brasses de la proue, dans l'eau glaciale de la baie, azurée par le ciel très clair, perce avec grâce et immanence le corps puissant d'un rorqual bleu. Leur esprit est hanté, et dans les eaux de Skjalfandi, comme une nuée myriadaire de diatomées, l'épouse et plonge dans l'espace et dans le temps, simple balane sur le dos de la baleine. Toute la chaîne alimentaire se base sur ces diamantaires. Les diatomées sont de silice et souvent sous la lune pâle des mers arctiques, un rayon glisse et fait briller quelques instants leur belle opale. Les radiolaires solitaires ou solidaires, collodaires et coloniaux seront de nos eaux les dentelières et leur silice fait d'épines inversées les rend pareils agglutinés à un vol de soleil en symbiose et explosé. À côté de la masse écumeuse des colosoums, le radiolaire acanthère est comme un signe planant dans l'océan, planant dans nos esprits, depuis que le savant Haeckel l'a nommé aile de pierre insigne, ou en latin Lithoptera. Les radiolaires de silice, dont la nature est indécise, vaguent dans le multiple océan et l'espace réduit d'un squelette réticulé à symétrie sphérique, à symétrie axiale, leur suffit. Si tout ce qui est est dans un lieu, ce lieu lui-même doit être dans un autre lieu et ainsi indéfiniment. Elle s'approche et elle s'éloigne. Dans sa dérive, le plancton hétéroclite peut-il réconcilier Zénon et Héraclite ? De Platon au plancton, passons gaiement de la métaphysique à nos métazoaires. Dialogue entre un métaphysicien et une cuboméduse sur un rivage austral. Qu'est-ce que l'être ? Quel est le sens de la vie ? Y a-t-il une cause première ? Qu'est-ce que la substance ? L'âme individuelle est-elle immortelle ? Qu'on ne m'ésuse pas de la méduse qui n'est pas plus pré-socratique que post-moderne. Vieille buse, vieille muse. Quand les méduses sont apparues, la lune était si proche que les marées étaient énormes. La terre alors tournait bien vite et les jours étaient rouges. Leur unique calice tunique d'eau, diaphane, sans queue ni tête, droite ni gauche, insensée en tous sens. Leur symétrie radieuse à boucher au soleil, 1 ou 2 milliards d'ans à dériver, à bourgeonner, à divaguer, étendue et substance en tous sens. À proférer dès l'aube sa semence en tous sens, à couvrir la durée par cycle et par segment, le temps dans tous les sens, une méduse au vol alentit et pélage lui parfois dans la nuit. Tu es cela aussi. Il nous faut un langage pour trouver notre sol et formuler la vie. L'étrave du navire commandé par Askia Sorfinnsdóttir quitte la baie de Baffin en l'été 2014 et s'engage dans le passage du Nord-Ouest. Son carnet de bord consigne une observation symphonique de centaines de belugas, les dégâts sur le corail algide du chalutage des grands fonds et l'observation, c'est un signe, de la récente migration inédite en 800 000 ans de zooplancton du Pacifique. Une troupe d'oies des neiges passe en vol vers le sud. La glace encore se désagrège. Les polars est là qui dévore un gros baleineau boréal. La sculpture en serpentinite d'un ours dansant par Nunapar et qui trône dans la cabine maintient ouverte la mémoire du temps où la vue d'un narval ranimait une vie affine. Au loin, lui, la baie de Baffin et l'inconnu du monde aval. Gondwana, Afrique de l'Ouest, Anthropocène, fin du XXe siècle. Je cherche l'or du temps. André Breton. De quoi les continents reçoivent-ils leur force? Des cratons, cœurs de roc encastrés dans la croûte, carènes anastomoses fendant des flots figés, puits de temps asséchés par désastre sans doute. Toute l'Afrique tient par quatre boucliers, tout l'or du continent platine et diamant gise dans l'archéen. Pour chacun des cratons apparaît un cratil sur la terre africaine où les langues parlées sont 2000. Et leur géologie prend une allure étrange entre désert et fleuve, ancré à son craton, il s'amuit le Nilo saharien ou l'humide s'abrite. Dans les bassins d'Afrique, du nord à l'Éthiopie, une mer transgressive dépose en vagues successives les langues couchitiques, les langues sémitiques et les langues berbères s'accrochent aux reliefs du Hoggar et à ceux de l'Atlas. Il est un fleuve qui arrive dans le désert et qui s'y perd, l'Australokavango dans le Kalahari, comme les cliques Khoisan dans le Pléistocène. La forêt de dialecte nigéro-congolaise est accrochée à ses cratons, de l'ouest au centre du Zimbabwe jusqu'au Cap-Val et a sédimenté tout au long de ses fleuves, les Niger, Sénégal, Volta, Congo, Zambèze et Limpopo. La théorie a du débit. Peau limpide ou peau niellée, il n'importe. Rien qui n'emporte ni ne digère le vol tacite des sols et de la terre. Que ces fleuves obèses s'évasant, qu'on sait né val près des cratons, mais qu'un lexicon gorge de mots flottés de l'or du temps sur les eaux de la terre. Un homme est riche en proportion du nombre de choses dont il peut se passer. Henri David Thoreau. Nuit dans la brousse, plus d'argent, ni de nourriture, plus de cartes. Un groupe au loin autour du feu, les voix s'estompent. Allongé sur le bouclier précambrien, j'étire et je replie mon paquet d'os. La nuit frôle, remue, stridule. Le ciel étoilé du cosmos poursuit sa course. Un sommeil sans coma, sommation des cellules. Suivre les voies de Gondwana, vie sans formule. Eurasie, fin du Pléistocène, moins de 20 000 ans. Je parcours la toundra en tous sens, un chemin qui n'a pas de fin, ma flûte en os de cygne en main, le tambour dans le dos. Le vent parle entre mes oreilles, les pierres dessinent mon corps, l'eau caresse mon regard et le ciel éclaire mes pas. Et ah, et ah. Pour eux, j'ai lu toutes les traces, avec eux longé les rivages, pour eux, j'ai volé dans les rêves, avec eux franchi les rivières, pour eux, j'ai plongé sous la terre, avec eux parcouru les plaines, j'ai bondi au-dessus des montagnes. Va là, va là! Où vont les grands troupeaux, nos sentiers se destinent, le mammouth, l'ovibos, le cerf et l'unicorne. Les loups, les grands oiseaux, tous les fauves ont faim. Pour eux, j'ai tant joué de l'eau, du vent, des pierres, souki, baki, naki. Mais toujours j'ai le blanc au fond de mon regard, le blanc brûlant de froid qui nous sert d'horizon. Le blanc solaire qui souffle vers le sud son haleine. Seul dans un ray de roche, j'interroge la tourmaline. Plongé dans la vision du noir sur le quartz blanc, avrac, vrac! Contre ce ciel sans fin, la taïga se couvre de charognes. Mon peuple de nomades sur le chemin du vide, mon peuple de taïga abouché à la grande mer, sa traversée de pierre en pierre et l'angoissante voie de glace jusqu'à la steppe inconnue peuplée d'animaux anonymes. À la vision qui s'achève, je dis « Prends-moi, grande terre, Fardik !» Amérique du Sud, Anthropocène, début du XXIe siècle. Ici débute la prosodie miocène, du beau pays marin au long destin de fleuves, lové entre la côte, les Andes et la Parime. Un pays maritime en plein milieu des terres, un pays de rivières au nom retentissant, Apuré, Arauco, Meta, Sinaruco, Caroni, Gaviare, Cora et Orénoque. Il fallait un Gondwana qui se disloque, un océan naissant et bien des failles pour que le continent, une île à cette époque, trouve sa poétique dans la terre, les chairs, les arbres et les eaux. Et si en notre temps le voyageur de ces régions entend monter de ces cours d'eau les dolentes lamentations du lamentin, la cantilène des sirènes, s'il voit une inie sans effroi, un beau dauphin d'eau douce répondre à quelques gestes, il lit le palimpseste d'un poème miocène. La mer a ses respirations, au vent, les vagues, à la lune, le flux, mais l'envahissement, la transgression marine qui noie les continents est un mystère terraqué. Un longtemps, l'océan a recouvert l'Amazonie, les vastes plaines vénézuéliennes laissant les cétacés et laissant les sirènes s'éjouir dans les flots. Puis il s'est retiré, exil en des eaux noires, en des eaux limoneuses, très riches, poissonneuses, pour les grands dauphins roses qui songent, on le suppose, aux très longs fleuves virides et vierges, aux fleuves radieux où sont ravis les berges. Numant le monde est de lumière, naissant ceux de nos océans par le feu de la terre, envol de l'eau de l'olivine, perlant de l'au-delà des lacs et de lave, depuis l'abîme du manteau. La présence de l'océan se lit aux lignes de la terre, son labyrinthe de rivières où se prodigue l'énergie alentour des plateaux, un treillis de cours d'eau, embranchements secrets, drainages récurrents où les courants rapides se disposent en peine, d'entrites de ravins dont héritent les plaines, aux plages inconnues, aux digues qui chancellent, aux paresseux ruisseaux qui bruissent sous la nue, puis gonflent en une nuit et masquent les mimoses, canal après canal, les eaux s'anastomosent. Les rivières grossissent et deviennent des fleuves, attracteurs de leur zone, de-ci un Orénoque, de-là un Amazone. Entre les deux géants dont les eaux se colloquent auprès de la Parime, par le quasi-chiaré défluent par des rocs et la force des choses, du naissant Orénoque, le long cétacé rose est passé par leurs eaux, et de l'un vers le même par la rime miocène. Un dernier poème. Tibet Braise. À Kenes et Marie-Claude. Qui n'a pas entendu chanter le haut Tibet? Je parlerai très peu du grand Milarepa. J'aborderai à peine Tebod de Ségalène, et pourtant ils sont là. Surgis hors de leur temps, poussés vers les sommets par des courants de convection, individus perdus au jeu des plaques, l'esprit s'enchaîne, haut dans l'Himalaya. Il est un espace-temps blanc dont les coordonnées sont affaires d'affinité, voire de projection, une topologie régie par la limite, la continuité et le voisinage. C'est dans un tel espace qu'évoluent ces personnages. Fils de la Terre Blanche, autant calédonien, ascète Marie-Blanque dans des cols herciniens, ermite du champ blanc des sentiers cadomiens, on l'a vu au Welgoth, aussi à Trébeurden. Non, il ne cherche pas l'or du temps, il a trouvé la terre de diamants. Sur les plages euclidiennes, une dakini dessine des mandalas chaoticistes et saisit avec lui les lignes que font le vent, la mer, les signes du monde en son premier matin. Lui, sur ses pages atopiques, marche aux limites. Selon les marées de l'esprit, c'est un fleuve qui va dans la mer océane, vers sa perfection de sapience, ou un train d'onde qui oscille, un flux de vagues qui trace le trait de côte.